Studio Tamani, voici les informations en français.
La partie technique est assurée par Gagné Kanté au micro pour la présentation Mirana Kilomaïga, les titres de cette édition. L'attendu ciment est passé de 85 000 à 100 000 francs CFA à Bafoulabé. Cette flambée est intervenue après l'attaque terroriste qui a visé mardi l'usine de ciment de Gungunteri. Des consommateurs dénoncent la situation. Le Mali dispose désormais d'un manuel sur la gestion des finances et la lutte contre la corruption. Ce document a été élaboré par la Fondation Frédéric Ebert en collaboration avec le CRM. Se déplacer à Bamako et dans des capitales régionales pendant l'hivernage est un véritable parcours de combattants à cause de l'état des routes. Dans la rubrique On en parle, des usagers expriment leur ras-le-bol et interpellent les autorités. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous. 72 heures seulement après l'attaque contre l'usine de ciment de Gungunteri dans le cercle de Bafoulabé, le prix du ciment connaît une flambée sur place. La tonne est passée de 85 000 à 100 000 francs CFA, une situation que déplorent les clients, d'autant que l'usine qui a été attaquée est toujours fermée. Sali Sissoko nous fait le point.
Les conséquences de cette attaque se font déjà sentir, nous confie le syndicat des travailleurs de l'usine de ciment de Gungunteri. Les activités sont à l'arrêt et aucune date n'a été fixée pour la reprise du travail.
Le marché aussi, il n'y aura pas de ciment, il n'y aura pas de vente actuellement vu la tension, les crises. Nous sommes tous à la maison actuellement, donc pas de travail et pas de vente aussi pour le ciment. Donc ça a un impact pour la population aussi parce qu'il n'y aura pas de ciment en ce moment.
Les clients, quant à eux, pense que cette flambée incombe aux vendeurs. Il estime que ceux-ci pouvaient vendre le stock restant au prix normal. Bamba Sissoko, un client rencontré à Bafoulabé.
Ce matin, je suis venu acheter du ciment. Je suis surpris de voir que la tonne est passée de 85 000 francs à 100 000 francs. Nous ne pouvons pas l'acheter parce que nous n'avons pas le moyen pour nous en procurer. Certes, l'usine a pris feu, mais il devrait vendre le stock restant à un prix abordable.
Des quincailleries rencontrées à Bamako reconnaissent tous que cette situation à Maïna n'a pas eu de répercussions sur leur marché.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X anciennement Twitter. La Fondation Frédéric Ebert, en collaboration avec le CRM, le Centre d'études et de réflexion au Mali, a élaboré un manuel sur la gestion des finances et la lutte contre la corruption. Ce document destiné à sensibiliser le public vise à renforcer la conscience collective face à la corruption. Le dit document capitalise un ensemble d'activités de formation à l'endroit de jeunes de la société civile et étudiants à Okoli Dambélé.
Ce manuel sur la gestion des finances et la lutte contre la corruption a été rédigé par sept experts venus du Mali, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Il se veut un outil accessible à tous. Cory Kone, inspecteur des finances, nous en parle.
C'est un manuel qui capitalise un ensemble d'activités de formation sur la manière dont les finances publiques sont gérées au niveau de l'État. L'objectif du manuel, c'est vraiment que les gens comprennent les liens entre les deux concepts. C'est un manuel grand public qui sera accessible de manière gratuite sur Internet, sur le site de la Fondation Frédéric Ebert.
La création de ce manuel a pour but de faire connaître le lien entre les deux concepts. Il encourage les citoyens à lutter contre ces phénomènes. Drissa Mamadou Koulibaly, vérificateur au bureau du vérificateur.
Ce manuel va servir d'outil de sensibilisation afin que nos compatriotes puissent prendre conscience de la nécessité de lutter contre la corruption. À ce niveau, nous invitons les citoyens à exercer ce qu'on appelle le contrôle citoyen. Dès lors qu'ils ont connaissance des actes de corruption dans des services publics, saisissent les services de l'État qui ont été créés.
Ce manuel accessible à tous engage collectivement à soutenir les efforts de l'État à lutter contre la corruption.
Parlons des langues nationales. Après l'officialisation des langues nationales depuis 2023, l'Union nationale des enseignants retraités de l'éducation et de la culture demande l'opérationnalisation rapide de ces langues. Au cours d'une conférence ce jeudi à Bamako, ces enseignants retraités ont insisté sur l'importance de ces langues dans la souveraineté totale du Mali à Oberté.
Professeur Abou Diara est linguiste, chercheur et conférencier. Pour lui, l'utilisation des langues nationales est une option fondamentale qui permet d'accélérer le développement de notre pays.
Quand un État veut être souverain, il faut être souverain dans tous les domaines stratégiques parce que c'est la langue qui est le support de notre culture. Il faut outiller ces langues-là pour qu'elles puissent jouer tout ce rôle. Parce qu'un État souverain, c'est un État qui travaille dans sa langue.
Le ministère de l'Éducation nationale a salué cette initiative qui va donner, selon lui, un coup d'accélérateur à l'utilisation des langues nationales. Pour son chargé de mission, Bana Moussa Bagaga, la langue nationale est un levier de développement et un outil de consolidation de la cohésion sociale.
Déjà, beaucoup de documents ont été traduits dans nos langues nationales. Le travail consiste à les rendre opérationnels jusqu'à l'utilisation des langues nationales dans l'enseignement. Le français devient une langue de travail et nos langues nationales deviennent la langue de communication.
Il faut rappeler que dans la Constitution du 22 juillet 2023, l'article 31 consacre l'officialisation des 13 langues nationales au Mali.
Des langues nationales, nous venons au Média suite à la proclamation des résultats définitifs de l'appel à candidature pour les fréquences et des autorisations pour l'établissement, l'exploitation et la distribution des services privés par la HAC, Haute Autorité de la Communication, la Maison de la Presse et les organisations professionnelles du secteur de l'audiovisuel disent avoir appris avec stupéfaction et indignation la proclamation de ces résultats définitifs. Dans un communiqué publié hier, elle dénonce les conditions qu'elle qualifie de douteuses dans lesquelles cet appel a été organisé.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Pendant l'hivernage, se déplacer à Bamako et dans des capitales régionales est difficile pour des usagers de la route. Ceux-ci regrettent surtout l'état désastreux des routes urbaines malgré des initiatives locales. Ils invitent les autorités à prendre toutes les dispositions pour trouver une solution à ce problème. Des réactions sont recueillies à Bamako, Kai Koulikoro, Koutiala et Segou par Khalifa Goïta avec l'appui de nos correspondants. À Koutiala, l'état des routes reste à désirer. Certes, le pays traverse un moment difficile, mais que les autorités fassent le maximum pour la réparation. Certains volontaires font de leur mieux. De passage hier, je vis un propriétaire de station qui est en train de remplir des trous avec de la boue. Ce n'est pas ça seulement la solution.
Ici, l'état des routes urbaines sont catastrophiques.
On y voit des trous sur les routes, chose qui endommage nos engins. Même si parfois ces routes sont réparées, tel n'est pas le cas pour le moment à Segou. Nous voulons une réparation.
En vérité, c'est pas facile parce que à chaque fois, on voit les déchets partout sur la route.
C'est un problème des caniveaux. Des gens aussi déversent des déchets sur les routes. Tout ceci contribue à la dégradation des routes. L'actualité de la semaine est dominée par l'adoption de la charte de la transition, l'instauration d'un couvre-feu dans les régions de Kaï et Dioïla et la peine maximum proposée par le parquet général contre Mme Boiré Félicie Soko et ses co-accusés. Rétroactu, c'est avec Lala Yahara Touré.
Nous commençons cette rétrospective avec l'adoption du projet de loi portant révision de la charte de la transition. Adoptée ce jeudi 3 juillet par le CNT, la charte donne un mandat de 5 ans renouvelable au président de la transition jusqu'à la pacification du pays. Et cela a compté de sa promulgation par le président de la transition. Selon la charte, les présidents de la transition, les membres du gouvernement et ceux du CNT sont désormais éligibles aux élections présidentielles et générales. Autre actualité phare de la semaine, c'est l'instauration d'un couvre-feu dans les régions de Kaï et Dioïla, décidée par les gouverneurs. Une mesure qui intervient après les attaques simultanées et coordonnées dans plusieurs localités du pays. Cette semaine, une formation de 2 jours sur le changement climatique a regroupé une vingtaine de jeunes en situation de handicap visuel. Il s'agissait de les outiller sur les notions clés liées au changement climatique. Nous terminons cette rétrospective par la peine maximale annoncée contre Mme Boiré Félicie Soko, colonel-major Noum Dabitao et général Mustapha Drabo dans l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Cette sentence a été requise par le parquet général de la Cour d'appel ce jeudi 3 juillet 2025.
Vous pouvez réécouter ce journal et le magazine qui va suivre en appelant le service Kounafoni au 37321. C'est gratuit. Vous devez seulement avoir 100 francs CFA de crédit dans votre téléphone. Faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56 à Studio Tamani. Nous nous attachons à une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Avant de se quitter, nous recevons Lala Yahara Touré pour l'introduction du club de Tamani. Bonsoir Lala, de quoi parle-t-on ce soir?
Bonsoir Imirana Kilumaiga. Ce soir au club, il sera question de maisons de production et de réalisation. Nous recevons pour en parler M. Mustapha Diallo. Il est réalisateur de cinéma. À son actif, de nombreuses productions. Le club est une présentation de Lala Diarra Touré et Aïssata Diarra. À tout à l'heure.
Merci Lala, on se retrouve juste après le magazine. C'est tout pour cette édition qui vous a été présentée par Imirana Kilumaiga à la mise en onde de cette Gagné Kanté. Nous sommes dans les 6 premiers mois de l'année 2025. Pendant ce temps, des communes peinent à recouvrer la moitié de leurs prévisions de taxes annuelles, notamment la TDRL. Pourtant, elle reste essentielle pour le développement national, en particulier à l'échelle des communes. Pour atteindre des pourcentages élevés, les autorités ont lancé plusieurs initiatives, parmi lesquelles la sensibilisation des responsables coutumiers, la digitalisation, entre autres. Dans ce numéro de votre magazine Économie, nous faisons le point de plusieurs communes du pays, une réalisation signée Draman Maïka.
Nous sommes à mi-parcours de l'année 2025 et dans plusieurs communes, le taux de paiement de la TDRL reste très bas. À Yoroso, par exemple, seuls 27% des recouvrements ont été effectués depuis le début de l'année. Boubacar Goïta, régisseur des recettes de la commune de Yoroso.
La commune de Yoroso compte 10 villages. L'ensemble de l'émission des impôts fait 31 301 125 francs. À la date d'aujourd'hui, on a recouvré 8 421 400 et il reste 22 879 725 et nous sommes à 27%. Si tu vois qu'à 6 mois nous sommes à 27%, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés.
Toujours dans la région de Koutiala, au chef-lieu de la commune, la situation est similaire. Ces faibles taux de recouvrement ralentit la mise en œuvre de nombreux projets de développement et impacte directement le fonctionnement de la commune urbaine. Gaussou Dambélé, secrétaire général de la commune urbaine de Koutiala.
Le montant total est recouvré durant toute l'année 2024 s'élève à 2 609 473. En l'état actuel, nous enregistrons également un montant de 2 6071 francs. On sait qu'il est vraiment minime par rapport à la prévision, estimée à plus de 27 703 500.
À Banjagara, le taux de recouvrement est légèrement meilleur, bien que les défis persistent. Les responsables restent optimistes et espèrent une hausse dans les mois à venir. Malé Guindo, régisseur des recettes de la commune urbaine de Banjagara.
Nous venons d'atteindre la moitié même de l'année. Le taux de recouvrement, nous sommes à 35,68%. C'est très faible. J'exhorte la population de Banjagara à venir vraiment s'acquitter de leurs impôts et taxes. Comme étant la TDRL, nous avons des collecteurs qui se promènent tous les jours, malgré les difficultés, malgré l'insécurité qui a menacé tout le monde.
Même si la digitalisation des paiements n'est pas effective dans toutes les mairies, les autorités locales multiplient les initiatives afin d'encourager les citoyens à s'acquitter de leurs taxes de développement régional et local. Malé Guindo, régisseur des recettes de la commune urbaine de Banjagara.
Il y a eu beaucoup de sensibilisation, de sciences, de travail dans ce quartier. Et puis à chaque fois, nous interpellons aussi les chefs de quartier et j'ai fait la situation du recouvrement à chaque instant. Le niveau de recouvrement par quartier pour attirer l'attention des chefs de quartier.
Selon des économistes, la TDRL représente plus de 60% du budget de fonctionnement de certaines mairies au Mali. Ainsi, ces taxes sont primordiales au développement économique et social d'une commune. Une importance qui convainc certaines personnes. Cependant, à travers le pays, beaucoup ne s'acquittent toujours pas.
C'est TDRL pour la construction des routes, des écoles.
Bon, vraiment, je ne sais pas pourquoi on doit payer la taxe à la mairie.
Je paye la TDRL.
Je paye.
Docteur Abdoulaye Ntigi Konare, économiste, met en garde. L'absence de paiement de la TDRL freine la croissance économique et le développement des infrastructures à l'échelle nationale.
Le plan économique, le non-paiement de la TDRL freine beaucoup le développement local. Les communes peinent à réaliser des investissements publics, ce qui alimente encore plus la méfiance des citoyens. Relancer la TDRL, c'est redonner aux communes les moyens de se développer. Mais des efforts sont en cours, comme la digitalisation.
Malgré les campagnes de sensibilisation et les efforts de modernisation, la taxe de développement régional et local reste encore trop peu perçue. Pourtant, au-delà d'un simple devoir fiscal, le paiement de la TDRL est un acte de participation au développement local.